Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne, bonjour
et bonne année.
Et effectivement, meilleurs vœux à tous.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, ravi de vous retrouver pour cette première émission Economica de l'année, ravi de retrouver Anne aussi au micro. Et traditionnellement, on va commencer par une citation. Le progrès du développement technique et industriel est de créer constamment de nouveaux besoins, c'est-à-dire de transformer et d'étendre la notion du bien-être. Et c'est d'Edgar Morin, vous l'auriez compris certainement, Anne.
Oui, oui.
Edgar Morin, dont je vous reparlerai à la fin de cette émission.
Oui, mais oui, c'est sûr, le bien-être, et parfois, malheureusement, ça passe par la croissance matérielle.
Oui,
ça, c'est un peu moins bien.
Sur lesquels, voilà, il y aurait beaucoup à dire. Alors, thème du jour aujourd'hui, dette et justice fiscale, le choix d'Anisla. Mais avant d'en venir à cet important sujet, je vais vous proposer, comme à l'accoutumée, quelques brèves que l'on commentera ensemble. La première, c'est une lecture du Monde qui me l'apprend, mais en fait, tous les journaux, bien évidemment, en parlent. C'est la crise en mer Rouge, crise géopolitique avec les Houthis, qui tirent sur tout ce qui bouge et ce qui passe dans leur détroit, surtout si c'est occidental. Et ça commence un peu à pénaliser l'industrie, et notamment le secteur automobile qui attend ces petites pièces qui viennent souvent de Chine. Alors, il y a Tesla qui a annoncé jeudi 11 janvier la suspension de la production de véhicules électriques dans son usine allemande, puisque tous ces composants fabriqués en Asie n'arrivent plus. Le constructeur américain nous dit, ouvrez les guillemets, l'allongement considérable des temps de transport crée un vide dans les chaînes d'approvisionnement. Donc ça prouve aussi que tout ce commerce mondialisé est extrêmement fragile. Il a été suivi dans cette décision par le Suédois Volvo, qui d'ailleurs n'est plus pas plus suédois que moi et que vous, puisqu'il est détenu aujourd'hui par un Chinois, et qui a évoqué l'arrêt de 3 jours de son usine belge de Gand, qui manque de boîtes de vitesse. IKEA, de même, a prévenu ses clients de retard de livraison, les délais d'acheminement plus longs, congestion des ports aussi, puisque les bateaux vont faire un grand tour de l'Afrique, et puis quand ils vont arriver devant les ports, ça va un peu engorger. Donc l'aval des chaînes d'approvisionnement va l'être de même. Le commandement central américain au Moyen-Orient a recensé 27 attaques de drones, de missiles, et même un missile balistique. Donc de moins en moins de navires, les armateurs ne sont pas fous, ils veulent pas perdre leur matériel très onéreux. De moins en moins de navires empruntent la mer Rouge et le canal de Suez, qui normalement voient passer 12% du commerce international. Et ce sont des conteneurs qui sont pour la plus grande partie à destination d'Europe. Donc on sait qu'il y a 4 grands armateurs européens, je ne vous les citerai pas tous, mais même aucun d'ailleurs, mais qui assurent 53% du transport mondial de ce que l'on appelle des boîtes et qui évite désormais ce périlleux détroit de Bab al-Mandab à l'entrée de la mer Rouge. Et donc, on va aller passer au Cap de Bonne-Espérance, ce qui fait qu'on rallonge le trajet de 13 000 petits kilomètres, ce qui n'est quand même pas rien. Et la durée, ça prend 10 jours de plus, donc ça engorge quelque part. C'est fragile, le commerce international, Anne ?
Oui, c'est fragile, mais si ces problèmes économiques pouvaient pousser les diplomates, les hommes politiques à essayer de trouver une issue pacifique à ce qui se passe à Gaza, parce qu'il me semble qu'on l'oublie un peu, mais cette situation, elle est due aussi à la guerre qui existe sur la bande de Gaza. Donc ce serait bien qu'au lieu de pleurer sur les problèmes économiques de ces... Bien sûr, ça prend plus de temps, bien sûr, ça pollue plus, mais peut-être, eh bien, il faudrait se poser la question de comment pacifier cette zone.
Oui, question qu'on se pose déjà depuis... moi, depuis tout petit, j'entends parler de ça. Mon grand âge fait qu'il y a quelques dizaines d'années que le problème n'est pas résolu.
Mais est-ce qu'on s'en donne les moyens ?
Non, on s'en donne pas les moyens. On pourrait faire avoir ce débat qu'on a déjà eu d'ailleurs dans l'émission. Ça va mieux, l'émission économique de la station, mais on reste un peu sec, on répète toujours un peu les mêmes choses et on ne voit pas la situation évoluer, et notamment le projet de deux États qui pourraient vivre en coexistence, comme d'ailleurs l'avait un peu rappelé Menahem Begin, hein, ça nous ramène loin, mais déjà Menahem Begin n'était pas Netanyahou ne se maintenant, on le sait, au pouvoir que il poursuit cette guerre parce que le jour où elle va s'arrêter, le jour où il va perdre le pouvoir, les lendemains qui l'attendent risquent d'être moins roses. Donc le garçon essaye de faire durer la guerre. Il est peut-être un peu au bout de cette politique, si on peut appeler ça une politique. Seuls d'ailleurs les Américains aujourd'hui, il suffit qu'ils disent stop et qu'ils ne fournissent plus ni l'énergie ni les bombes, et là ça va s'arrêter. Mais pour l'instant, n'oublions pas qu'il y a une élection ça va être une année de grande élection, la moitié de la planète va voter cette année, et je pense que beaucoup de décisions qui auraient pu être courageuses, nécessaires, ne seront pas prises, ou on va faire un peu de populisme pour essayer de se maintenir à flot, l'habituel court-termisme de nos politiques.
Oui.
Deuxième brève, la démographie en France, qui est un enjeu économique. Alors, vous savez que le président de la République, dans sa conférence de presse, très curieusement organisée d'ailleurs, qui a surtout servi à faire de la communication, puisqu'on n'y a rien appris de particulier, a évoqué un réarmement démographique pour une France plus forte. On peut se demander ce que ça veut dire exactement. Est-ce qu'il y a corrélation entre cette croissance démographique et la croissance économique? Alors, les démographes et les économistes en discutent, mais pour le président de la République, ce serait du bon sens. La France sera plus forte par la relance de sa natalité, qui est un peu en berne, puisqu'il y a un déclin continu des naissances en France qui sont tombées en 2023 au plus bas depuis 1945, d'où une batterie de mesures destinées à alimenter le fameux réarmement démographique, très curieux terme, qui a beaucoup amusé les humoristes et pas que. La contribution d'une natalité dynamique, ce qui fait le cœur du logiciel idéologique, c'est la croissance. Et pour le président de la République, ça paraît être une évidence. Alors la croissance, comment? Pourquoi faire? Bon, ça, il ne nous le dit jamais. Il aligne toute une série de problèmes auxquels il nous dit qu'il va s'attaquer, mais on n'a jamais encore vu ni les moyens, ni bien évidemment les résultats. Le recul de la fécondité, pour beaucoup, c'est l'un des symptômes de ce que les gens appellent, certains appellent sur l'échiquier politique, les plus éclatants symptômes du déclin, moins de naissances. Nous dit Monsieur Bruno Retailleau, c'est moins de travail, moins de consommation, affaiblissement économique, donc un déclin. C'est le chef de file des Républicains au Sénat qui ne brille pas par son ouverture, nous le savons. L'extrême droite, bien sûr, prône une relance de la natalité pour la perpétuation de notre civilisation. On retrouve toujours les mêmes au même endroit avec les mêmes formules creuses qui sont complètement décalées de ce qu'est la réalité. Et puis le réchauffement climatique, ou plutôt parler de réchauffement climatique, le bouleversement climatique, fait à l'inverse apparaître chez les écologistes beaucoup de réserves sur la question. Sandrine Rousseau, qui s'est fait depuis un an, députée de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale de Paris, dit « Nous sommes près de 8 milliards d'humains sur Terre, il y a largement de quoi subvenir à tous les besoins de l'économie », ce qui n'est absolument pas faux. Elle est économiste de formation, Anne, c'est peut-être une collègue à vous, je crois qu'elle est universitaire aussi.
Oui, je crois.
Et elle se dit que les perspectives démographiques qui projettent une population de plus de 10 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050 sont une catastrophe écologique absolue. Et sur ce terrain, je ne vous cache pas que je la suis absolument.
Oui, je pense aussi. Et puis, dire que tout le monde partage cette idée, ce n'est pas tellement vrai chez les jeunes. On voit que les jeunes ont envie d'avoir de moins en moins d'enfants. Puis pourquoi la natalité? On est bien suffisant. Et ce langage, ce vocabulaire guerrier dont a l'habitude notre président...
Oui, il a fait le coup pendant le Covid
aussi. La Covid, on est en guerre. Là, le réarmement, je trouve que dans la situation dans laquelle on est, on pourrait trouver un autre type de vocabulaire.
Tout à fait. Mais voilà, pour un homme qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais approché, ça traduit peut-être une frustration quelque part de ce garçon. Les panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, on en voit, on voudrait en voir un peu plus. Le problème, c'est de savoir où les mettre, c'est la grande question. Et Novetic, vous savez, ce quotidien en ligne nous dit, il va se produire la fermeture d'une des plus grandes usines de panneaux solaires d'Europe. Et notre souveraineté énergétique va en être gravement affectée. Alors, l'industriel Meyer Burger, qui fait des panneaux comme son nom ne l'indique pas, pourrait bientôt fermer son usine solaire en Allemagne, qui est l'une des plus grandes d'Europe, et qui irait se délocaliser, alors pas en Chine cette fois-ci, mais aux États-Unis. Alors que l'Union européenne tente d'assurer sa souveraineté énergétique, les mesures de protection américaines contre Pékin provoque un envahissement des panneaux solaires chinois sur le marché européen, ce qui est quand même un coup dur. Rappelons qu'on fabriquait des panneaux en France, on est à même pas loin, dans une très très belle usine qui était aux portes d'Agen, il y a quelques années de cela. Malheureusement, comme on ne l'a pas soutenu cette production, et comme on a soutenu finalement les Chinois, c'était très sympa pour nous de leur part, mais enfin bon, les Chinois l'ont bien profité, mais le retour de bâton est là. L'usine concernée est celle de Freiberg, et c'est la plus grande production opérationnelle de modules solaires en Europe, avec 500 salariés qui vont se retrouver en difficulté si le projet va jusqu'au bout. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, elle nous dit que compte tenu de la détérioration de l'environnement du marché européen, la poursuite de la production solaire à grande échelle n'est plus viable pour le moment. Et le règlement du Net Zero Industry Act, qui est une initiative qui découle du Green Deal, a ainsi pour objectif que l'Europe atteigne au moins 40% de ses besoins de déploiement des technologies propres d'ici 2030. Et d'une manière plus globale, cette initiative est l'un des axes sur lesquels Bruxelles compte s'appuyer pour parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050. Mais tout cela apparaît quand même comme un peu compromis. Le contexte est préoccupant, surtout depuis que l'accès au marché américain est fermé aux Chinois. Eh bien, où c'est qu'ils vont le vendre ? Ils vont le vendre chez nous et donc ils font s'effondrer les prix. Donc les industriels européens souffrent des coûts de production et de la concurrence des États-Unis d'un côté, où la production photovoltaïque locale est considérablement subventionnée. N'oublions pas ce qu'a lancé M. Biden, Réduction Act en 2022, et qui incite les entreprises à venir produire chez eux. Donc, Burger risque de se délocaliser aux États-Unis, puisque l'entreprise pense être mieux protégée contre les pratiques commerciales de Pékin, qui sont, il faut bien le reconnaître, assez agressives. Alors, est-ce que l'Europe est en train de perdre la bataille de sa souveraineté énergétique et industrielle ? Question, Anne, qu'en pensez-vous ? Elle va le faire ? Avec quelles usines ? On nous dit qu'on veut sortir de la dépendance avec la Chine, donc ça veut dire que l'industrie regagne le territoire européen. Et
oui,
puis là,
mais je ne vois pas du tout comment c'est possible que l'industrie regagne le territoire européen sans aucun plan de réindustrialisation, sans aucune politique volontaire, en ayant comme seul credo plus de marché, plus de marché, plus de marché, plus de concurrence. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça n'a jamais fonctionné, ça ne va pas fonctionner tout d'un coup maintenant. Donc, il est temps de réfléchir à quelle politique industrielle on veut en Europe.
Le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas globalement, et on ne réfléchit pas en se projetant sur les années à venir. On est toujours dans le court-termisme.
On est dans le court-termisme, et puis dans une vision de l'économie complètement arriérée, qui pense qu'il n'y a que la concurrence pour se développer, qu'il n'y a que le libéralisme économique et qu'il n'y a que le marché qui soit efficace, et alors que ce n'est pas le cas.
Et qu'on s'aperçoit, et même dans d'autres domaines, à commencer par le domaine agricole, qui aujourd'hui agite la France. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure si on a le temps, mais effectivement, là aussi, on se rend compte qu'il faudrait donner une réponse globale avec des réformes de fond et des réformes du marché qui n'arriveront pas.
Ils n'arriveront pas, non. Donc,
ne soyons pas trop optimistes, mais a priori, on a peu de chances de se tromper avec ce type de prédiction. Allez, Anne, passons au sujet, au noyau dur de cette émission. La dette, la justice fiscale, comment vous l'abordez ?
Eh bien, j'avais envie de reparler de la dette et d'insister encore une fois pour dire que la dette, certes, ce sont des dépenses, mais ce sont aussi des recettes. Donc, la dette de l'État en septembre...
Il va falloir nous expliquer, parce que la dette qui est des recettes...
découle des recettes et des dépenses. De la différence, la dette en septembre 2023, c'est pour la France 2400 milliards d'euros, donc 2409 d'euros. Donc la dette, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on l'a déjà dit, mais il faut peut-être le répéter, c'est la somme des déficits qui n'ont pas été remboursés sur les années précédentes. Donc chaque année, le Trésor public enregistre des recettes et des dépenses. Si les dépenses sont plus importantes que les recettes, il y a déficit. Depuis près de 40 ans, l'État français est en déficit à la fin de chaque année. Donc la dette, c'est la somme des déficits des années précédentes qui n'ont pas fini d'être remboursés, plus ce qu'on appelle les charges de la dette, c'est-à-dire les intérêts. En 2022, la charge de la dette, c'est plus de 53 milliards d'euros, soit le budget du ministère de la Défense.
Alors que jusque-là, finalement... on avait des taux qui étaient proches de zéro, voire parfois des taux négatifs. Mais là, la tendance s'est inversée et donc ça va commencer à nous coûter extrêmement cher.
Oui, donc la charge augmente, mais aussi les dépenses n'augmentent pas tant que ça, sauf sur des périodes particulières de crise, hein, comme le Covid ou quand il a fallu refinancer les banques. Mais le problème aussi, c'est le problème des recettes. Les recettes n'augmentent pas, les recettes diminuent de plus en plus, et ce qui augmente la dette. Donc quand on dit il faut diminuer les dépenses, peut-être faudrait-il réfléchir en se disant il faut peut-être aussi augmenter les recettes de l'État. Si on regarde en proportion du PIB, du produit intérieur brut, les dépenses de l'État sont restées stables depuis les années 1980, environ 20% du PIB. Donc, si la dette augmente, il faut arrêter de regarder du côté des dépenses pour les services publics, les fonctionnaires, etc., c'est-à-dire les dépenses pour la cohésion sociale, parce que ce ne sont pas des dépenses pour rien, ce sont des dépenses pour la société, pour tous les citoyens. Il faut regarder aussi du côté des recettes et du côté de la charge.
Comment on peut avoir des recettes supplémentaires aujourd'hui? Il faudrait qu'il y ait une économie qui produisent beaucoup plus qu'elles ne produisent, ou alors, augmenter les impôts.
Alors, moi je pense qu'il y a une autre solution. L'autre solution, dont on parle peu, c'est de faire payer les impôts à ceux qui doivent les payer, sans nécessairement les augmenter. Je vous rappelle que l'évasion fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros par an, en France.
C'est sûr que si on avait 100 milliards d'euros dans le budget en plus, ça se sentirait.
Ça se sentirait. 100 milliards d'euros, alors j'ai oublié de reprendre mes calculs ici, j'avais fait un calcul, c'est plus de 19 000 infirmiers et infirmières payés 10 000 euros bruts, comme ça ils payent des cotisations sociales, par an pendant 42 ans. Payés 10 000 euros par mois pendant 42 ans, ce qui est énorme. C'est ce que l'on perd tous les ans.
Et pourtant, on a quand même des services fiscaux, on a des gens qui vérifient, mais on n'a peut-être pas des gens assez nombreux, on n'a peut-être pas non plus des gens assez bien formés pour ce type de contrôle, parce que c'est souvent quand même les grosses entreprises qui ont le plus les moyens de frauder en jouant avec la fiscalité, en jouant avec les fiscalités de différents pays, en jouant avec ce qu'on appelle les prix de transfert techniquement. Et puis, c'est ce qui m'a toujours frappé, je crois déjà l'avoir dit à ces micros, c'est que lorsqu'on lève un loup fiscal, c'est-à-dire lorsque on s'aperçoit, comme les Panama Papers par exemple, qu'il y a des filières très très organisées d'évasion fiscale, qui sait qui lève le lièvre? Ce ne sont jamais les services de l'État, ce sont des groupements internationaux de journalistes. Et pourtant, nous avons chez nous quand même des services... qu'on appelle hein, les services avec un grand S, spéciaux, secrets, comme vous voulez, qui auraient parfaitement les moyens d'enquêter sur ces types d'évasion fiscale très sophistiquées.
Oui, c'est de l'évasion fiscale. Alors, ce n'est pas forcément de la fraude fiscale, hein, c'est légal, c'est de l'évasion, mais c'est vrai que ce sont les plus grosses entreprises qui ont les moyens de se payer des avocats fiscalistes pour profiter de toutes les niches fiscales qui existent, de toutes les possibilités d'évasion qui sont possibles, de toutes les architectures financières pour pouvoir payer peu d'impôts. Quand une très grande entreprise paye beaucoup d'impôts, elle paye 3%. Enfin, c'est à peu près ça. Alors que les petites entreprises, les artisans, eux, ils payent leurs impôts parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de l'évasion fiscale. Et on l'a vu, on en a parlé, je crois, cet automne, l'automne 2023. On a aussi des surprofits. Alors moi, je préfère l'expression anglaise, des profits excessifs. Qui ont été développés sur le dos de l'inflation, hein, qui a accentué l'inflation. On le voit notamment dans les marges des sociétés agroalimentaires. Et la Banque Centrale Européenne le dit, il faut taxer ces profits excessifs. Il faut se remettre à faire payer leurs impôts aux plus riches.
Problème, c'est que taxer ces profits qui sont produits dans plusieurs pays avec des législations fiscales tout à fait différentes, avec des circuits économiques très très particuliers et encore une fois très bien travaillés par des spécialistes pour le plus grand bonheur de ces sociétés, c'est extrêmement complexe. Le dire c'est facile et c'est un peu populiste hein, de dire on va taxer les surprofits, ok, mais techniquement c'est redoutable.
Techniquement, c'est redoutable tant qu'on reste sur une fiscalité qui a été inventée dans les années 1920. Mais on peut aussi imaginer une évolution de la fiscalité et ne pas, par exemple... Alors moi, je ne suis pas comptable, je ne suis pas spécialiste de ces techniques-là, mais on peut imaginer qu'on arrête de taxer à partir des sièges sociaux, mais de taxer autrement, de taxer sur la production. Enfin, il y a d'autres techniques. Le problème, c'est qu'on a une fiscalité des années 20, du début du XXe siècle, alors qu'on n'était pas du tout dans le même capitalisme. Aujourd'hui, on est sur du capitalisme financiarisé. C'est pas du tout la même chose et la fiscalité n'a pas tant évolué que ça. Elle a évolué en volume, on a augmenté ou diminué, mais sa base et sa philosophie, en quelque sorte, enfin, sa technique, elle est restée à peu près la même.
Oui, et puis il faudrait aussi que les services fiscaux soient dotés de personnel plus nombreux et surtout bien mieux formés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui maîtrisent parfaitement bien la fiscalité, mais pas assez. Et les vérificateurs de base, souvent, sont très courts techniquement, surtout quand ils proviennent d'autres administrations, comme le Trésor, par exemple, puisqu'il y a une fusion des deux administrations. Et on se retrouve avec des gens qui ne savent pas ce que c'est que le contrôle fiscal, que ce type de technique. Et évidemment, face à des avocats fiscalistes affûtés, il y en a d'excellents, ils ne font pas le poids.
Ils font pas le poids. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont mal formés, mais en tous les cas, quand ils sont très bons, eh bien, ils sont employés dans le privé. Et le privé leur propose des salaires bien plus hauts pour aller faire de la défiscalisation plutôt que de rester donc, dans le service public et de contraindre un peu cette défiscalisation.
Ce qu'on appelle le pantouflage, Anne.
Oui.
Voulez-vous voilà. Que nous fassions notre première pause pour réfléchir à cette question épineuse? C'est vous qui l'avez choisi?
Oui. Alors, j'ai choisi un guitariste que j'aime bien, qui s'appelle Nicolas Diès. Donc, je trouve, est un super guitariste qui reprend des classiques et des airs moins classiques. Donc, je vous propose de découvrir ce musicien.
Thank you.
c'était All of Me, j'ai oublié de donner le titre, de Nicolas Dieff.
Voilà le choix d'Anisla, ma complice. Alors revenons à ce sujet que vous nous exposiez, qui est celui de la dette, de la fiscalité. Nous étions en parler de cette importante évasion fiscale qui nous pénalise à peu près de, je dis à peu près parce qu'on n'a jamais réussi à la chiffrer, par définition, puisque c'est de l'évasion fiscale, de 100 milliards d'euros par an.
Oui. Donc, et quand on regarde ce qui s'est produit, on voit que Emmanuel Macron a été le chef d'État français qui a le plus creusé la dette publique ces dernières années.
Bon, le Covid l'a pas aidé. Hein.
Le Covid l'a pas aidé, mais il est quand même aussi à l'origine du CICE, Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est une belle niche, qu'il a mis en place dès son poste dans le gouvernement sous Hollande. Donc on a une diminution des cotisations sociales de 20 milliards d'euros par an. Ensuite, il y a une multiplication des cadeaux fiscaux aux riches et aux grandes entreprises, suppression de l'ISF, forte baisse des impôts sur les sociétés, suppression des impôts de production, diminution de l'impôt sur les dividendes, suppression de la taxe d'habitation, etc.
Les impôts de production n'ont pas tous été supprimés. Hein.
Non, alors diminution des impôts, forte diminution des impôts de production. Tout cela fait à peu près 50 milliards d'euros perdus chaque année. Et la France va devoir emprunter en 2024 285 milliards d'euros. Donc on va voir encore une dette qui va continuer à augmenter. Dans le rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité, intitulé Global Tax Evasion Report 2024, publié en octobre 2023, donc ce rapport montre que l'évasion fiscale n'est possible que grâce à une volonté politique. Et ce rapport, ou à une non-volonté, hein, ça dépend dans quel sens on le regarde, et ce rapport va dénoncer un affaiblissement spectaculaire donc de l'impôt minimum mondial sur les sociétés multinationales, ainsi que des taux d'imposition effectifs spectaculairement bas, donc compris entre 0 et 0,5% de leur patrimoine total. Donc, des impôts faibles par rapport à la richesse de ces milliardaires du monde entier. Donc, le constat de la Cour des comptes, c'est la Cour des comptes aussi qui le dit, hein, l'impôt est mité par ces niches fiscales.
Il y en a beaucoup de niches fiscales. On ne sait même plus d'ailleurs à quoi elle sert, parce que la niche fiscale, c'est finalement une décision politique pour inciter l'économie à aller dans un certain sens, à aller sur certains secteurs, certains créneaux. Le problème, c'est qu'après, on laisse ces niches fiscales, quand elles n'ont plus de raison d'être politiquement, économiquement, on les laisse perdurer et on se retrouve avec des paquets de niches fiscales qui finalement ne servent plus à rien sur le plan ni politique ni économique, mais qui continuent à nous coûter une fortune.
Oui, qui ne servent plus à rien au niveau incitatif, puisqu'elles ont été créées pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, dans la loi de finances pour 2023, il y a 465 dispositifs fiscaux dérogatoires.
Oui, c'est ça.
C'est quelque chose d'énorme. Donc, ils ne servent plus pour inciter les entreprises à se comporter de la façon dont on a envie qu'elles se comportent, mais qui sont utilisées dans des stratégies de défiscalisation. Et à ces niches fiscales s'ajoutent ce qu'on appelle des niches sociales, dont le montant atteint lui aussi des records. Selon la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le manque à gagner provenant des différentes exonérations de cotisations sociales est passé de 74,3 milliards d'euros en 2021 à 81,56 milliards d'euros en 2022. Les prévisions s'établissent à 80, donc c'est toujours la Commission des comptes de la Sécurité sociale, les prévisions s'établissent à 87 milliards d'euros pour 2023 et 90,67 milliards d'euros pour 2024. Avec un effet pervers de ces niches sociales, c'est qu'il y a des trappes à bas salaire, puisque ces dispositifs incitent les employeurs à ne pas augmenter les salaires, puisque au-delà d'un certain niveau de salaire, eh bien, on ne bénéficie plus de l'exemption des cotisations sociales. Alors, pour l'instant, le gouvernement s'arc-boute sur sa ligne, hein, maintenir l'orientation de sa politique fiscale, donc ne pas revenir sur les mesures prises au cours des dernières années, réduire les déficits et la dette publique en réduisant les dépenses publiques, c'est toujours le même credo qui est suivi. notamment les dépenses publiques par rapport au fameux produit intérieur brut. Donc ça veut dire que si on veut augmenter les dépenses, il faut augmenter le produit intérieur brut, donc augmenter la croissance. Bon, on a par exemple, pour diminuer ces dépenses publiques, une augmentation du déremboursement des médicaments, par exemple, qui est une forme, qu'on pourrait considérer comme une forme d'impôt, hein, à la limite, mais qui est là, qui touche tout le monde.
Oui, puisque je pense qu'on va payer, c'est ça, 1 euro maintenant oui. par boîte de médicaments.
Oui, alors il y a un seuil, hein, tout de même pour ceux qui ont des maladies chroniques, qui ont de fortes dépenses, mais il y a tout de même un déremboursement des médicaments, c'est-à-dire des choses pour essayer de diminuer les dépenses. Donc le gouvernement cherche à réaliser aux alentours de 15 milliards d'euros d'économies pour atteindre son objectif d'un déficit public de 4,4% du PIB en 2024.
Dans la fameuse règle des 3%, elle est complètement balayée. Enfin, elle n'avait pas grand sens non plus, puisque oui, c'est un chiffre qui avait été jeté arbitrairement. Mais enfin, il faut bien qu'on ait un critère, et donc c'est terminé.
C'est terminé, mais en même temps, on pourrait longuement discuter de ces 3%. D'abord, ça avait été comme ça, posé, jeté, comme vous dites, sur la table. Mais en plus, on peut se poser la question du PIB. En fait, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que l'objectif, c'est toujours d'augmenter la production, d'augmenter la croissance, alors qu'on est dans une situation écologique problématique? Est-ce qu'on ne pourrait pas compter dans cette croissance d'autres choses? Bon, etc. Et est-ce que, tout simplement, aussi, si on reste à cheval sur ce PIB, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause les acquis fiscaux des plus riches, mais quand je parle des riches, je parle des très riches, hein, et des grandes entreprises qui sont pour l'instant sanctuarisées?
Alors, les très riches, vous parlez de personnes physiques plus que d'entreprises, j'imagine.
Oui, quand je dis plus riches et grandes entreprises, je parle des personnes physiques, mais les personnes physiques les plus riches sont souvent en lien avec les plus grosses entreprises.
Oui, on le voit d'ailleurs au montant de distribution de dividendes et à l'accroissement de ces distributions de dividendes qui ne prennent pas toujours le chemin français, hein, du territoire, mais qui vont partir sur ce qu'on appelle des paradis fiscaux, qui vont éviter l'imposition. Comment ça se fait que les États ne collaborent pas un peu plus là-dessus? Parce que tous les contribuables, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient français, américains, allemands, italiens, espagnols et j'en passe, bien évidemment, tous les États et se trouvent en but à ce problème d'évasion fiscale.
Ben oui.
Tous les États en sont appauvris. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas beaucoup plus de solidarité à ce niveau-là, au niveau justement de la traque des paradis fiscaux?
Oui, alors juste avant de répondre exactement à cette question, l'exemple, c'est par exemple Total qui est en train d'investir en Ouganda pour chercher du pétrole. Et pour aller en Ouganda, eh bien, il a créé une filiale au Luxembourg. C'est cette filiale qui va en Ouganda parce que le Luxembourg et l'Ouganda ont signé un accord de non-taxation des dividendes, ce qui permet donc d'aller extraire du pétrole en Ouganda et de ne pas payer donc fiscalité sur les dividendes qui sont distribués à la filiale de Total qui passe par le Luxembourg. Alors pourquoi les États font ça? Parce que les États sont encore dans une espèce de concurrence.
Oui, ça veut dire qu'il y a du dumping fiscal, ça veut dire que certains sont prêts à casser leur fiscalité pour justement attirer des entreprises chez eux qu'ils ne payeront pas d'impôts, mais qui alimenteront leur économie.
Qui alimenteront leur économie, oui, certes, mais on aurait quand même... En fait, quand on est un paradis fiscal, bien sûr, quand on est comme le Luxembourg ou la Suisse, ça va, on est un vieux paradis fiscal, bon, ça fonctionne. Mais quand on fait partie des nouveaux paradis fiscaux, ça veut dire aussi que l'économie du pays, donc je pense à certains paradis fiscaux africains notamment, ça veut dire que l'économie du pays, elle est uniquement orientée sur cette défiscalisation, en quelque sorte, et qu'il y a, sur ces pays-là, il n'y a pas de services publics, il n'y a pas de développement des structures, etc., des infrastructures. Il n'y a que des banques et des sociétés écrans qui permettent de défiscaliser. Donc, il faudrait tout de même que les États commencent à coopérer et puis qu'il y ait des États qui commencent à dire, eh bien, nous, on ne joue plus le jeu. Est-ce que toutes les entreprises vont partir? Je ne pense pas, parce qu'il y a des entreprises qui sont obligées d'être sur les lieux aussi pour produire.
Oui, tout à vendre. Fait, tout à fait. Et de toute façon, s'il y avait une réglementation au niveau international, il n'aurait pas trop le choix, tous ces pays. Il faudrait une ONU fiscale.
Oui, mais je pense que si certains pays commencent aussi à se comporter autrement, à arrêter de jouer le jeu de ce dumping fiscal, moi, je ne crois pas à cette histoire de dire, eh bien, si on ne joue pas le jeu du dumping fiscal, tous les riches vont partir. Ce n'est pas vrai, sinon tout le monde serait ailleurs. Et puis, ce n'est pas eux qui produisent véritablement, ce n'est pas eux qui amènent véritablement de la richesse à l'économie. Donc, on pourrait arrêter de jouer ce jeu du dumping fiscal sans remettre en cause complètement notre économie non plus, me semble-t-il. Alors que pour l'instant, on a une espèce de concurrence, on a une espèce de dumping entre les pays et que, plus ça va, plus on aggrave les injustices fiscales, plus on aggrave les injustices sociales, on le voit en France, et plus on empêche aussi de faire face aux enjeux climatiques, parce qu'on n'a plus les moyens de faire face à ces enjeux.
Comment vous avez perçu la suppression de la taxe d'habitation par Macron? Et également de, c'était quasiment corrélatif puisqu'elle était recouvrée à cette occasion, de la, comment on appelle pour la télévision, nous payons une redevance, voilà, je cherchais le mot qui m'échappait, on a supprimé la redevance télévisuelle aujourd'hui. Donc l'État se prive volontairement d'un certain nombre de ressources alors que personne ne l'avait vraiment demandé. Alors tout le monde, bien sûr, une économie d'impôt, un impôt supprimé, ce qui est rarissime, tout le monde hurle de joie, mais les dépenses, le budget de la France, lui, il s'alourdit. Il s'alourdit, on a moins de recettes.
Oui, on a moins de recettes. Et je ne sais pas si tout le monde hurle de joie parce que...
Certes. En tout cas, pas les collectivités locales qui touchaient la taxe d'habitation et qui aujourd'hui sont de nouveau entre les mains de l'État, qui donne une dotation dont il apprécie lui-même le montant.
Oui, et ce qui fait que ces collectivités locales, elles vont avoir moins de moyens pour assurer leurs services, leurs services publics locaux. En ayant moins de moyens, ces services publics locaux seront moins bons, moins développés, moins performants, etc. Et là, on aura un argument supplémentaire pour dire, eh bien, il faut le faire passer au privé. C'est le privé qui va être le plus efficace. Chaque fois qu'on supprime des moyens à une puissance publique, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, enfin peu importe, chaque fois qu'on diminue ces moyens, on donne un argument pour dire, eh bien, on n'a qu'à privatiser cette activité. Et je pense qu'il y a toujours ce credo qui est de dire, c'est comme quand on supprime la... Eh bien voilà, moi aussi le mot m'échappe. La redevance télévisuelle. Quand on supprime la redevance télévisuelle, eh bien on donne les armes au privé parce que je ne vois pas comment Arte, par exemple, va pouvoir vivre très longtemps si on n'a pas ce type de redevance. Eh bien, on n'aura plus que des télévisions, que des radios privées... un peu de temps.
On va... Et notamment les horribles radios et télévisions du groupe Bolloré, pour
notamment.
Le citer. On fait une deuxième pause musicale. Alors vous nous avez fait découvrir tout à l'heure Nicolas Diez, ce guitariste. Moi, je vais peut-être vous faire découvrir, peut-être le connaissez-vous déjà, un monsieur qui s'appelle Paramat. En réalité, son nom est Amat Ndiaye, j'espère que je le prononce bien. On va écouter Ndumbo Ndiaye et c'est joué et chanté par Paramat, mais accompagné par Jean-Paul Raffit à la guitare électrique et deux personnes que je pense recevoir, je crois que la date est fixée, en février ou mars prochain, nous les découvrirons. Alors le nom d'Amat Ndiaye ne laisse pas deviner qu'il vit en Ariège, mais c'est pourtant la réalité et il se produit beaucoup, beaucoup dans notre région. Donc écoutons Paramat et son complice Jean-Paul Raffit.
Umbo en Ali, Adjero Fama, Adjero Elen. Umbo en Ali, Ouelen Umbo Yai, Adjero Boye.
see my tile away for my be willing for you. No, Mbo and Ali, Boylet, Mbo, Boylet, no, Yara. Mbo and Ali, Adjuro Bamba, Adjuro Poye, see my tile away for my be willing for you.
Voilà, pas Matt et Jean-Paul Raffitte, mais le morceau n'était pas celui que je vous avais annoncé. Je me suis pris les pieds. Dans le CD, je vous avais annoncé Ndoubo Ndiaye, vous l'entendrez un jour prochain, mais ce que nous allons entendre s'appelle Bleu Juin. Voilà, revenons un peu à l'économie avec Anisla et revenons un peu à l'économie en Occitanie, mais qui ne concerne pas que l'Occitanie. Vous avez vu que c'est la révolution un peu agricole. Hein. Nous avons été dans cette région, je pense, un peu à l'initiative de cette affaire, hein, puisque les premiers blocages agricoles, enfin, réalisés par les agriculteurs sur nos routes, ont été le fait d'agriculteurs d'Occitanie. L'agriculture, effectivement, est en grande crise quand on voit un certain nombre d'agriculteurs qui travaillent 10-15 heures par jour pour gagner 700-800 euros couverts de dettes qui sont le jouet de certains distributeurs, de la grande distribution pour la plupart du temps, voire de certains industriels. On peut quand même se poser un certain nombre de questions sur le point de savoir si notre société ne marche pas sur la tête. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, soutenons nos agriculteurs, etc. Oui, oui, on les soutient comme on a soutenu les infirmières à une certaine époque, l'on applaudissait, ce qui n'a strictement servi à rien. Alors soutenir les agriculteurs, bien sûr qu'on les soutient, mais on les soutient pour quoi faire et dans quel but et avec quel projet. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise agricole qui est une crise globale, qu'il faudrait traiter globalement, parce que c'est tout un système qui est en crise, mais qui n'est pas seulement agricole. Mais là, c'est les agriculteurs qui légitimement revendiquent. Par contre, j'ai un peu l'impression, et vous me corrigerez Anne si je dis une bêtise, j'ai un peu l'impression qu'ils se trompent dans l'analyse et dans l'origine de leurs difficultés. Qu'ils attribuent à l'Europe qui donne beaucoup beaucoup d'argent, qu'ils attribuent aussi aux écologistes qui ne veulent pas du tout leur mort mais qui veulent juste les aider et peut-être aider plus la petite entreprise agricole, peut-être plus aussi le petit pêcheur plutôt que les industriels. J'ai l'impression que la FNSEA, qui est le grand syndicat agricole, quasiment le ministre de l'agriculture en France depuis des années, joue plutôt le jeu de la grande industrie agricole. D'ailleurs, son président fait partie de cette dernière catégorie. On a l'impression que certains partis politiques, le RN, pour ne nommer que lui, joue la corde populiste à fond. Et on a l'impression qu'au final, après cette agitation du gouvernement et des uns et des autres, les agriculteurs finiront par rentrer chez eux nantis de vagues promesses qui n'auront quasiment aucun effet et ils seront toujours gros gens comme devant et ça se poursuivra et tout ça est extrêmement malheureux. Rappelons aussi le nombre de suicides d'agriculteurs qui est extrêmement important, des gens qui sont complètement pris à la gorge économiquement et qui préfèrent en finir, ce qui est la preuve d'une société qui dysfonctionne complètement. Quelle est votre analyse là-dessus, l'analyse de l'économiste ?
Je pense que comme vous venez de le dire, le problème c'est l'endettement, cet endettement massif des paysans, cet endettement qui est tellement important qu'ils n'ont pas d'autre solution que de se soumettre aux diktats, notamment de la grande distribution, parce que quand on est endetté, on n'a pas les mains libres, on n'est pas libre de choisir ce que l'on veut. Alors, c'est vrai aussi, c'est comme pour le secteur, comme pour les autres entreprises, on fait pas de distinction entre les petites entreprises et les grandes entreprises au niveau de la fiscalité, comme on ne fait pas de distinction entre les petits paysans et les grands produits paysans qui font de l'agriculture extensive, alors qu'il me semble qu'il faudrait justement distinguer les deux. Ce que j'entends aussi dans cette colère des agriculteurs et des paysans, c'est cette colère face à l'Europe. Elle a un côté que je trouve un peu justifié, c'est que cette Europe qui leur demande donc des normes environnementales supplémentaires, ce qui je trouve est une assez bonne idée, mais en même temps, elle continue à jouer la concurrence. La concurrence avec d'autres États qui, eux, ne mettent pas en place ces normes environnementales. Alors, c'est pas tenable. Et en ce sens, je comprends les paysans, c'est pas tenable. Mais après, je pense que le problème, c'est qu'il faut réfléchir donc au système productif. Il faut remettre en cause ce système productif qui fonctionne sur un endettement massif des paysans qui ensuite se trouvent pieds et poings liés dans leur production, où ils doivent toujours produire plus en quantité.
Certains traités internationaux, par exemple avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d'autres, où l'on reçoit notamment beaucoup de viande, d'agneau, c'est complètement affolant, alors que nous avons la ressource sur place, que des gens qui produisent, qui arrivent à produire moins cher, malgré le transport qui écologiquement, effectivement, nous compte aussi beaucoup de CO2, comment peut-on accepter ça ? Comment peut-on accepter que nos agriculteurs soient mis en concurrence avec des gens qui n'ont pas du tout, mais pas du tout les mêmes contraintes, pas du tout les mêmes façons d'exploiter, c'est totalement scandaleux.
Oui, c'est totalement scandaleux, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on raisonne comme si le marché pouvait tout résoudre, alors que c'est le marché qui est le problème. Enfin, le marché concurrentiel, cette idée d'une concurrence qui permettrait de résoudre tous les problèmes, il faut arrêter de réfléchir de cette façon-là. La concurrence et mettre en concurrence les agriculteurs français et notamment les plus petits avec des concurrents internationaux qui n'ont pas du tout les mêmes règles du jeu, c'est quelque chose qui me semble être complètement aberrant. Et des traités internationaux, c'est des traités donc d'ouverture des marchés à la concurrence, c'est ça ces traités-là, c'est pas des traités de coopération, c'est des traités de mise en concurrence, se multiplient sans arrêt et vont mettre l'agriculture de plus en plus en difficulté. Alors, mais il y a la FNSEA, mais il y a aussi la Confédération paysanne, certes, c'est un syndicat beaucoup plus petit, dont les paysans en général qui sont dans la Confédération paysanne sont beaucoup plus petit aussi, entre guillemets, mais cette confédération paysanne, il faudrait aussi l'écouter parce qu'il me semble qu'elle propose des voies différentes, des organisations différentes pour une production et pour une production aussi agricole plus respectueuse de l'environnement.
Eh bien, souhaitons-le pour eux parce qu'ils en ont vraiment besoin et ils sont dans une grande difficulté économique et puis aussi dans une grande détresse psychologique et une grande solitude. Alors que, on dit toujours, ils nous nourrissent, oui, c'est vrai, ils nous nourrissent aussi. Et puis, c'est quand même la base de notre société, hein, il n'y a pas si longtemps. Les agriculteurs étaient fort nombreux. Aujourd'hui, ça se réduit comme peau de chagrin. Et on peut se demander jusqu'où on ira. Qui c'est qui restera pour faire vivre nos campagnes et pour justement nous nourrir et faire du local là où il en faut aujourd'hui et éviter des transports de CO2. Quand on voit par exemple que le port de Lorient veut acheter du poisson qui va venir d'Afrique pour le traiter à Lorient, et alors et les pêcheurs de Lorient, qu'est-ce qu'ils deviennent là-dedans ? C'est vrai qu'il y a une ressource qui est moindre, mais il y a certainement d'autres solutions à trouver plutôt que la grande industrie, que ce soit des pêches ou d'agriculture aujourd'hui, impose son tempo à toute la foultitude de professionnels et d'entrepreneurs, d'artisans agricoles et d'artisans pêcheurs.
Oui, alors c'est vrai que aussi, certains paysans aussi demandent davantage de primes, etc. Mais il me semble que, plus de primes, c'est peut-être une solution à très très court terme, mais plus de primes, ça veut dire demain plus d'endettement. Donc ça résoudra rien. Ce sur quoi, me semble-t-il, il faut réfléchir en premier, c'est l'endettement, parce que grâce à l'endettement, on a servi les gens et on les met dans des situations psychologiques intenables et on n'a pas à faire vivre ça à des êtres humains.
Nous sommes bien d'accord, Anne. Nous suivrons ça, bien sûr, avec attention. Dernière rubrique, un conseil pour prétendument culturel, mais qui peut l'être aussi. Qu'est-ce que vous nous proposez, Anne ?
Alors moi, je vous propose une bande dessinée économique qui est sortie au Seuil, qui s'appelle « Et patron pour une révolution dans l'entreprise ». C'est une BD, c'est un peu dense, mais c'est très intéressant. Il y a Isabelle Ferreras, notamment, qui est une économiste, une sociologue, et d'autres économistes, des juristes, des sociologues qui ont travaillé sur cette BD, qui explique ce que c'est que l'entreprise, comment elle fonctionne, ce que c'est que le monde de l'entreprise. Ce que c'est, est-ce que la démocratie dans l'entreprise existe, ce que c'est qu'un contrat de travail, etc. C'est extrêmement intéressant. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, s'ils veulent comprendre ce que c'est que l'entreprise, je pense que c'est une bande dessinée qui est très claire et que je conseille vivement.
Alors rappelons le titre, c'est ça, « Et patron ».
Et patron,
pour une révolution dans l'entreprise. Voilà. C'est édité au Seuil, Isabelle Ferreras, Thème Endicott, Miranda Richmond-Mouillot.
Qui a écrit les textes et Dave Hackett qui a dessiné. Et la Team Endicott, en fait, c'est un groupe de juristes, de sociologues et d'économistes.
Bon, donc rien que des spécialistes
des jeunes spécialistes
associés. Eh bien, pour ma part, je vais vous conseiller, j'ai commencé par lui et je vais terminer par lui, la lecture d'une tribune d'Edgar Morin qui a été publiée au Monde. Donc Edgar Morin, monsieur qui a un certain âge et donc beaucoup d'expérience, de recul et de réflexion. Il est à la fois sociologue et philosophe. Il a intitulé sa rubrique « Le progrès des connaissances a suscité une régression de la pensée ». Multiplication des guerres, réchauffement climatique, essor des régimes autoritaires. Et il nous dit « Le monde court au désastre, mais il nous faut résister à la haine ». Et c'est une tribune extrêmement intéressante d'une grande hauteur de vue et puis une réflexion, un conseil d'un grand ancien qui a beaucoup vécu.
100 ans.
Voilà, 100 ans, beaucoup réfléchi, beaucoup vu des expériences diverses et variées. Et quand ce monsieur nous dit « il faut résister à la haine » dans l'époque où on est, dans une époque, dans un temps où la moitié de la planète va devoir aller aux urnes, on aimerait bien qu'au moment de glisser ce fameux bulletin, il pense à ça, résister à la haine.
Et arrêter de se réarmer et d'être en guerre.
Merci, monsieur Edgar Morin. Voilà, c'était Economica, une émission de Anisla et de Jacques Lavernier. Nous avions bien sûr à la réalisation notre spécialiste des boutons, Léo Touroult, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Economica. Au revoir, Anne.
Au revoir.
Belle journée à toutes et à tous.
Belle journée.